Chapitre 7. Jondrette. L'été puis l'automne passe. Marius n'a qu'un seul désir et qu'une seule pensée. Revoir le doux et adorable visage de la belle inconnue du jardin du Luxembourg. Un soir, alors qu'il marche en direction de la rue Saint-Jacques pour aller dîner, il est bousculé par deux jeunes filles très pauvres qui s'enfuient en courant. Il fait quelques pas et aperçoit une enveloppe grise sur le trottoir. Il se baisse et la ramasse.
« Elle doit probablement appartenir à ces malheureuses, »
dit-il. Il met la lettre dans sa poche et continue son chemin. De retour à la Masure Gorbeau, il décide d'ouvrir l'enveloppe.
« Je découvrirai peut-être l'adresse de ces deux jeunes filles, »
pense-t-il. À l'intérieur, il trouve quatre lettres dans lesquelles l'expéditeur demande de l'argent à quatre personnes différentes. Il les lit et remarque qu'elles portent toutes une signature différente, mais qu'elles sont toutes écrites de la même écriture. Finalement, n'ayant rien découvert de très intéressant, il met l'enveloppe dans un coin de sa chambre et se couche. Le lendemain matin, quelqu'un frappe à sa porte. Marius ouvre et voit une jeune fille très maigre et mal vêtue qui tient une lettre à la main. Il a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part.
« Que voulez-vous, mademoiselle ?»«
C'est une lettre pour vous, monsieur Marius, »
répond la jeune fille. Marius prend la lettre et commence à la lire.
« Mon aimable voisin, ma fille aînée vous dira que nous sommes sans un morceau de pain depuis 2 jours et que mon épouse est malade. Je sais que vous avez un cœur généreux et je vous serai infiniment reconnaissant si vous pouviez nous aider. Votre humble serviteur, Jondrette. »
Cette lettre est exactement comme les autres. La même écriture, le même style. Marius comprend que ses voisins sont encore plus pauvres que lui et que Jondrette exploite la charité des autres en utilisant ses filles comme messagers.
« Mademoiselle, »
dit Marius,
« j'ai quelque chose qui est à vous, je crois. »
Il prend alors l'enveloppe grise et la donne à la jeune fille.
« Ah ! Nous l'avons cherchée partout, cette enveloppe. Je dois immédiatement remettre ces lettres, »
dit-elle en s'en allant. Marius s'allonge sur son lit et reste silencieux un long moment. Il est triste de ne pas avoir vu la détresse des Jondrette avant. Plus tard, il se lève, observe le mur qui le sépare de ses voisins et aperçoit une petite fissure près du plafond. Il monte sur une chaise, approche son œil du trou et y regarde à travers. Ses voisins vivent dans une pièce sale, misérable et sombre. Soudain, la jeune fille venue chez lui 1 heure auparavant entre dans la pièce et crie
« Il vient !»«
Qui ?»
demande le père.
« Le monsieur, le philanthrope !»«
Le philanthrope ?»
s'exclame le père.
« Vite, éteignons le feu !» et cassons un carreau de la fenêtre pour paraître encore plus pauvre. »
Quelques instants plus tard, quelqu'un frappe à la porte. Jondrette se précipite pour ouvrir.
« Entrez, monsieur, entrez, mon respectable bienfaiteur !»
Un homme assez âgé et une jeune fille entrent dans la pièce. Marius, qui observe la scène, n'en croit pas ses yeux. Il reconnaît immédiatement ce visage angélique. C'est elle! C'est la jeune fille du jardin du Luxembourg. L'homme dépose un énorme paquet sur la table et dit à Jondrette.
« Monsieur, vous trouverez dans ce paquet des vêtements neufs et des couvertures de laine. »«
Monsieur, »
répond Jondrette en s'inclinant jusqu'à terre.
« Vous nous comblez. Malheureusement, demain c'est le 4 février. » Et nous serons chassés d'ici et jetés dans la rue si nous ne payons pas notre loyer avant ce soir. Je dois 60 francs.
Ne vous inquiétez pas,
dit l'homme.
Je reviendrai ce soir à 6 heures pour vous donner l'argent.
Mon bienfaiteur,
s'écrie Jondrette.
Merci, 1000 fois merci.
Jondrette accompagne ensuite Monsieur Leblanc et sa fille dans la rue. Marius veut les suivre. Et après un instant de réflexion, il sort de sa chambre et descend rapidement les escaliers. Malheureusement, lorsqu'il arrive dans la rue, il voit le fiacre partir et il n'a pas assez d'argent pour en prendre un. Déçu, il remonte dans sa chambre et croise dans le couloir la fille aînée des Jondrette.
« Monsieur Marius,
dit-elle,
vous avez l'air triste. Qu'est-ce que vous avez ?»«
Eh bien, vous avez amené ici ce vieux monsieur et sa fille. Connaissez-vous leur adresse ?»«
Non. »«
Pouvez-vous la trouver ? Je vous donnerai tout ce que vous voulez. »
La fille aînée des Jondrette, qui aime secrètement Marius, comprend alors que le jeune homme s'intéresse à la fille du bienfaiteur.
« C'est d'accord, vous aurez l'adresse de la belle demoiselle, »
dit-elle tristement. Une fois dans sa chambre, Marius s'assoit sur une chaise et se met à rêver. Soudain, il entend Jondrette s'écrier.
« Je te dis que je l'ai reconnue, j'en suis sûr !»«
De qui parle Jondrette ? De Monsieur Leblanc ?»
se demande Marius, qui bondit sur une chaise pour observer la scène à travers la fissure.
« Oui, c'est lui !»
poursuit-il.
« 8 ans ont passé, mais je l'ai reconnue tout de suite. Et sa fille, c'est elle, c'est l'Alouette !»«
Quoi ?»
s'étonne sa femme.
« Cette belle demoiselle qui regardait mes filles avec pitié, c'est l'Alouette ?»
Jondrette reste silencieux quelques instants. Il s'approche ensuite de sa femme et lui dit
« Notre fortune est faite. Heureusement qu'il ne m'a pas reconnu. Écoute, tout est déjà arrangé. Des amis viendront nous aider à 6 heures. À cette heure-là, le voisin est déjà parti dîner. Il n'y a personne dans la maison. Il est pris !»
Marius, qui a tout entendu, est très inquiet. Il est 1 heure. Il lui reste 5 heures avant le guet-apens. Il doit agir, et vite.
« Mais que faire ? »
pense-t-il.
« Alerter Monsieur Leblanc ? Impossible ! Je n'ai pas son adresse. »
Il réfléchit un instant, puis il se dit
« Il n'y a qu'une chose à faire pour arrêter ces misérables, prévenir la police. »
Marius se rend au commissariat et raconte l'histoire à un inspecteur qui l'écoute avec un grand intérêt.
« Rentrez chez vous et cachez-vous dans votre chambre. Vous observerez tout par le trou dans le mur. Quand vous le jugerez nécessaire, vous crierez et nous arriverons. »
« Entendu, »
répond Marius. Lorsque le jeune homme est sur le point de sortir, l'inspecteur lui dit
« Si, entre-temps, vous avez besoin de moi, revenez ici. Je suis l'inspecteur Javert. »
Marius rentre chez lui et attend patiemment l'heure fatidique. À 6 heures précises, il monte sur une chaise et regarde par la fissure. Il voit arriver Monsieur Leblanc qui salue Jondrette et s'installe près de la table. Soudain, 4 hommes entrent silencieusement dans la pièce.
« Qui sont ces hommes ?»
demande Monsieur Leblanc, visiblement inquiet.
« Ah, ce sont des voisins, des amis. Ils ont le visage noir parce qu'ils travaillent dans le charbon. Ne vous en occupez pas, mon bienfaiteur. »
Monsieur Leblanc se lève, s'appuie contre le mur et regarde rapidement dans la chambre. Jondrette et sa femme sont à sa gauche, du côté de la fenêtre, tandis que les 4 hommes sont à sa droite, près de la porte. Tout à coup, Jondrette, qui se plaignait jusqu'alors de sa misère, demande
« Vous ne me reconnaissez pas ?»
Monsieur Leblanc le fixe et lui dit
« Non,
je ne m'appelle pas Jondrette, mais Thénardier. Je suis l'aubergiste de Montfermeil. »
En entendant le nom de Thénardier, Marius est bouleversé. Il sent comme une lame d'épée traverser son cœur.
« L'homme qui a sauvé mon père sur le champ de bataille est donc ce monstre, »
pense-t-il.
« Ah !»
poursuit Thénardier.
« Je vous retrouve enfin, monsieur le philanthrope. Vous ne me reconnaissez donc pas. Ce n'est pas vous qui êtes venu à Montfermeil il y a 8 ans, la nuit de Noël 1823. Ce n'est pas vous qui m'avez pris l'enfant de la Fantine, l'Alouette ?»
Il s'arrête un instant, fait un pas vers la porte, puis se retourne vers Monsieur Leblanc en disant
« Sachez encore ceci, monsieur le philanthrope. Moi, je ne suis pas un homme qui vient enlever des enfants dans les maisons. Je suis un ancien soldat français. Je devrais être décoré. J'étais à Waterloo, moi, et j'ai sauvé un général. Mais sa voix était si faible que je n'ai pas entendu son nom. Il m'a oublié d'ailleurs, ce général-là. Il ne valait pas mieux que les autres. Mais finissons-en. Il me faut de l'argent, beaucoup d'argent. »
Derrière le mur, Marius est anéanti. Plus de doute possible. Ce Thénardier est bien l'homme qui a sauvé son père. Que faire? Avertir la police pour sauver M. Leblanc ou respecter le testament de son père? Il prend alors un morceau de papier sur lequel il écrit « La police est là » et il le jette chez les Thénardier par la fissure.
« Là, quelque chose qui tombe !»
crie la Thénardier.
« Qu'est-ce que c'est? Par où est-ce arrivé ?»
Son mari ramasse le papier et lit.
« La police est là. C'est arrivé de la fenêtre. C'est un message des nôtres. Vite, sauvons-nous »
Entre-temps, Javert, impatient, s'est décidé à monter sans attendre le signal de Marius. Au moment où Thénardier est sur le point de s'enfuir par la fenêtre, l'inspecteur entre dans la pièce avec ses hommes.
« Halte là !»
dit-il.
« Vous êtes 6, nous sommes 15, rendez-vous !»
Les policiers capturent les malfaiteurs et les attachent. Alors qu'il commence à rédiger son procès-verbal, Javert demande qu'on lui amène l'homme qui était prisonnier.
« Il n'est plus là !»
dit un policier.
« Il s'est enfui !»
Monsieur Leblanc a en effet profité de l'agitation et de l'obscurité pour s'élancer par la fenêtre.
« Diable !»
dit Javert.
« Ce devait être le meilleur !»